Effectivement, il fallait qu'il soit vraiment désespéré pour faire ça. On ne comprend pas très bien, mais je pense que c'était vraiment un signe de désespoir absolu, se réfugier chez les ennemis, en quelque sorte, dans la famille de Goliath, qu'il avait joyeusement tué. Donc, c'était problématique, et ça montre qu'il était complètement au bout du rouleau. À partir du moment où il confie ses parents, je pense que c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Voilà. C'était 1 Samuel, chapitre 22, pour ceux qui veulent suivre, au verset 3. Enfin, on peut recommencer au verset 1, d'ailleurs, pour se remettre dans le bain. David partit de là, donc de chez les Philistins, et se réfugia dans la grotte d'Adoulam. Ses frères et toute sa famille l'apprirent et ils descendirent l'y rejoindre. Et on avait vu qu'à cette époque, quand on avait un ennemi, bah, c'était l'ennemi de toute la famille. Et ça ne gênait pas de tuer le père, la mère, les frères et sœurs, si on en avait après quelqu'un. Donc ses frères et toute sa famille vont se trouver dans le marasme à cause de lui. Ils ont été dans la gloire à cause de lui quand il a coupé la tête de Goliath. Et maintenant, ils vont être dans le marasme le plus total. Apparemment, ils perdent tout. Et ils vont le rejoindre dans cette grotte où il s'était réfugié. Tous ceux qui se trouvaient dans le désarroi, qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Et alors, on avait dit la dernière fois, hein, c'est pour un début de règne, c'était un peu la catastrophe. Lui qui était appelé à être roi sur l'ensemble du pays d'Israël, qui était à l'époque un pays important, prospère, et il se trouve à la tête de 400 à 600 personnes, des mécontents, des râleurs, des gens endettés, etc. Des gens qui ont fui, des fugitifs en tout genre. Il y eut avec lui environ 400 hommes et on va voir plus tard que le nombre augmente régulièrement. Donc c'était un début de règne, pas très honorable, pas très beau. Mais voilà, il a accepté avec ce qu'il avait sous la main, il a accepté d'être leur chef. Et on va remarquer d'ailleurs à ce propos, on le verra l'année prochaine davantage, que c'était pas un chef de pillard. Parce que souvent, les bandes comme ça, à l'époque, s'ils voulaient manger, il fallait piller. Ils allaient dans les fermes, ils allaient dans les maisons, et ils exigeaient, ils volaient, ils menaçaient. Et si vraiment les gens étaient trop récalcitrants, on les tuait. David va pas du tout être ce style de chef de bande. On va le voir dans l'année prochaine, malheureusement, on le verra avec un homme Nabal, où quand il lui refuse la nourriture, quand il lui refuse de lui donner quoi que ce soit, il ne va pas le tuer. Et on va voir qu'il a une autre attitude envers son travail, on va dire, son rôle de chef de bande, que ceux de l'environnement de l'époque. Il va éviter tout ce qui est pillage, vol, etc. Donc c'était un bon début de règne, d'obliger ces gens à marcher dans une certaine droiture. De là, il s'en alla à Mitzpé de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Alors on s'était un petit peu arrêté là-dessus. Et il va confier donc ses parents, sa famille, parce que ce n'est pas une vie pour eux, je pense, avec leurs femmes, leurs enfants, de se réfugier dans des grottes avec la peur au ventre que l'armée de Saül vienne les détruire. Donc il va les confier au roi de Moab. Alors vous allez me dire, mais Moab, c'était un ennemi. Alors ça dépendait des périodes. Moab, il y avait des bons moments, il y en avait des moins bons. Là, apparemment, c'était un bon moment. Et il faut se rappeler que la grand-mère de David était Ruth, une Moabite qui avait été accueillie dans le peuple d'Israël. Et donc, David, Jessé, Obed, Ruth. Voilà. Donc, c'est son arrière-grand-mère. Donc, certainement, il y avait encore des grands-oncles, grands-tantes, il y avait encore des cousins qui étaient à Moab. Et ça n'a pas été trop difficile, vu les lois d'hospitalité de l'époque, de confier la famille de David à la famille moabite, donc de l'arrière-grand-mère de David. C'était une bonne chose. Ils ont été protégés là pendant jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Et il ne sait pas encore. Il sait qu'il doit être roi, mais quand il regarde la réalité du moment, ça n'en prend pas vraiment la tournure. Alors il se contente de dire « jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi ». Il est très sage. Il n'est pas pessimiste. Franchement, moi, à sa place, je crois que j'aurais dit « bon, le mieux, c'est qu'il s'installe là-bas parce que c'est mal parti pour être roi hein ». Avec ma bande de gars, là, je ne vais pas aller très loin. Il y a toute l'armée de Saül qui va me talonner. Qui sait s'ils finiront pas par m'avoir. Mais non, il laisse la porte ouverte jusqu'à ce que je sache. Pour l'instant, je ne sais pas. Il se contente de dire « je ne sais pas ». Je pense que quand il était chez les Philistins, il était beaucoup plus négatif que ça. Et c'est là qu'on voit qu'il remonte la pente. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Il remonte la pente. Il sort un peu du brouillard. Il commence à mentionner de nouveau le rôle de Dieu dans sa vie. Parce que vous avez vu, quand il était chez les Philistins, aucune mention de Dieu. On sent qu'il est au fond du trou, dans le brouillard le plus complet. Donc là, il remonte la pente. On va voir aussi dans ce texte, un petit peu après, Gad le prophète, c'est le verset 5, dit à David, ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et rentre au pays de Juda. David s'en alla et se rendit dans la forêt de Héret. Donc, on s'aperçoit qu'il a avec lui un prophète qui, apparemment, soit reste avec eux, soit reste à proximité. Donc, voilà, il n'est plus seul, perdu chez les Philistins. Et même le prophète va l'encourager à quitter cette forteresse pour aller dans la forêt de Héret, c'est-à-dire au pays de Juda. C'est son pays, c'est sa patrie, c'est sa province, on pourrait dire. Il était dans le pays de Benjamin, c'était le pays de Saül. C'était la patrie de Saül et il sera forcément plus en sécurité chez les siens dans la tribu de Juda. Donc, il va suivre le conseil du prophète et il va se retrouver dans la forêt de Héret. Alors, c'est assez curieux, quelqu'un a remarqué que géographiquement, alors moi je ne connais pas suffisamment bien la géographie, surtout de cette époque, c'était un peu plus verdoyant, il semblerait, mais il semble qu'il va de plus en plus vers une zone désertique. Au fur et à mesure des histoires, là, jusqu'à ce qu'on verra l'année prochaine, il s'enfonce un peu dans le désert, d'une zone de plus en plus désertique. Là, il était dans des cavernes à flanc de montagne, il va passer dans la forêt et après il va aller dans le désert. Le sens symbolique est là aussi. Il va rentrer dans une période de désert. Mais un désert où Dieu pourvoit, un désert où Dieu ne l'abandonne pas, mais un désert quand même. C'est pas très drôle, le désert. Et c'est pas évident pour lui. Alors, on avait dit la dernière fois qu'il reprend pied. On le voit donc à tous ces détails-là. Et nous aussi, quand est-ce qu'on reprend pied? C'est quand on remet Dieu dans notre situation. Quand on se souvient qu'il a des plans et qu'il les réalisera. Tout au moins, il laisse la porte ouverte jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Quand on réalise aussi qu'on n'y arrivera pas tout seul. Je crois que là, c'est clair, aller se réfugier chez les Philistins, il a compris, j'y arriverai pas tout seul. Même réfugié chez un autre peuple, j'y arriverai pas tout seul. Il accepte la compagnie des gens que Dieu a mis sur sa route. Et pourtant, ces gens sont loin d'être parfaits. Alors, quand quelquefois on rouspète tous sur l'Église, hein, c'est normal, puisqu'elle est faite d'humains, comme je disais la semaine dernière, bah, vous savez, l'Église de David n'était pas terrible. Hein. Des gens bourrés de dettes, des mécontents, etc. Mais bon, c'est les gens que Dieu avait mis sur sa route. Et il va s'en occuper. Il va même les discipliner, leur apprendre à ne pas piller, etc. Il accepte les gens que Dieu met sur sa route, avec toutes leurs imperfections. Moi, je n'aurais pas trop aimé hein, avoir une église remplie de mécontents et, et d'endettés, et toutes sortes de fugitifs. Ouh. Mais c'est comme ça qu'il a appris son métier de roi, apparemment. Hein. Il a accepté les gens que Dieu a mis sur sa route. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on accepte les gens que Dieu met sur notre route? On se dit, ah Seigneur, j'aimerais tellement bien que ce soit un tel ou un tel, ou ah, je voudrais bien que, être entouré par des gens plus ceci ou moins cela. Et puis, je pense que la solution, c'est celle de David. On accepte les gens que Dieu met sur notre route, que ce soit au niveau familial, travail, voilà, travail c'est pas facile parce qu'on y passe beaucoup de temps, à l'école, des classes entières remplies de mécontents, on connaît tous ça, On accepte et on fait du mieux qu'on peut avec l'aide de Dieu. Accepter les collègues de travail, accepter les copains d'école, etc. C'est pas évident hein, d'accepter les gens que Dieu place autour de nous. Mais si on pense que c'est pas un hasard et qu'il a peut-être un plan. Je me souviens à l'école d'avoir fait cette expérience. C'était en quatrième. Je suis tombée dans une classe que je qualifierais d'horrible. Des gens agressifs, des filles, c'était un lycée de filles, extrêmement agressives. Elles étaient déplaisantes, une haine profonde des bons élèves. Bon, je n'étais pas géniale, mais j'étais relativement bonne élève. Et du coup, ce n'était pas drôle à vivre. Et comme j'ai prié, je me souviens, je priais, Seigneur, mais c'est pas possible. Vraiment, j'acceptais pas ces gens qui étaient tellement déplaisants, agressifs, et toutes les vacheries qu'ils pouvaient dire, ils les disaient. Et, bon, en quatrième, on est jeune, on est encore assez sensible. C'était pas évident à vivre. Et je me demandais comment Dieu ferait, parce qu'il pouvait pas vider la classe, hein. Donc, comment est-ce que Dieu pouvait changer autant de gens? Et je priais, parce que j'avais peur, en fait, hein. Ils étaient vraiment méchants. Il s'est passé quelque chose de très drôle. Vous savez, la façon dont Dieu organise les choses parfois. Je suis sûre qu'on a tous des témoignages. Comment Dieu va changer des ambiances, va changer au bureau ou même dans la famille, etc. Et je priais, mais j'étais vraiment désespérée. Et puis, il s'est trouvé qu'un jour, le prof de français a demandé à ce qu'on... On gardait le texte sous les yeux, mais on joue le... C'était le bourgeois gentilhomme, Molière. Et elle m'a demandé de jouer le rôle de, je crois que c'était Madame Jourdain. Et évidemment, vous avez tous pu le remarquer, qu'il y a la veine du théâtre dans la famille, des deux côtés. Et évidemment, j'ai joué de tout mon cœur, parce qu'en plus j'aimais beaucoup Molière. Je lisais Molière depuis le CM1, donc j'étais passionnée. Et j'ai tellement fait rire la classe que je suis devenue... populaire, on va dire. Et les filles sont devenues extrêmement gentilles et l'ambiance a complètement changé à mon égard. Vous voyez, c'était pas prévu. Et je me souviendrai toujours, à l'époque, il y avait encore des prix. Je me souviens le jour des prix où, bon, j'avais bien travaillé en quatrième, j'avais cravaché. Je m'y étais mise parce que les deux classes avant, je n'avais pas fait grand-chose. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait bosser, d'ailleurs, en quatrième. Et quand je suis revenue avec ma pile de bouquins, comment elles m'ont applaudi. Et je me souviendrai, c'est resté gravé dans ma tête, comment Dieu peut changer une ambiance. Je n'avais pas grand mérite là-dedans, mais Dieu s'était arrangé pour que l'ambiance change. Merci Seigneur. Et je pense que, je vous raconte ça, ce n'est pas pour... me faire enfler les chevilles, c'est pour que vous, si vous êtes dans un contexte de travail, de famille ou d'école vraiment lourd et pénible, Dieu peut changer l'ambiance. Il a mille et une manières de faire. Faites-lui confiance et vous découragez pas. Je crois qu'il y en a, d'autres qui auraient des témoignages là-dessus, je pense Philippe ou d'autres, hein, où Dieu peut changer l'ambiance du boulot. Voilà, donc soyez encouragés. David, je pense que l'ambiance du début avec sa bande, ça ne devait pas être très drôle. Mais petit à petit, les choses ont changé. Et on va le voir malheureusement l'année prochaine. On ne va pas continuer cette année. Rendez-vous l'année prochaine. Donc, quand on remet Dieu au cœur de notre situation, les choses changent. Et on accepte les gens qui sont autour de nous. Avec tous leurs défauts. Il faut bien qu'ils acceptent les nôtres aussi. Et c'est beaucoup mieux que de s'appuyer, comme faisait David au début, sur des mensonges. Il avait osé mentir au prêtre, hein, quand même. Sur des mensonges, des demi-vérités, etc. Voilà. La force du poignet, ça nous mène toujours dans des situations baroques où il faut mentir, il faut raconter n'importe quoi. Là, c'est fini. Il a vraiment passé à une nouvelle étape. Alors, dans la plupart des épreuves, d'ailleurs, il y a ce temps d'angoisse, de panique, où on fait n'importe quoi. Et... on a du mal à croire que Dieu tient tout en main. David n'a pas fait exception. Faut remarquer que Dieu n'a pas jugé David. Il n'y a pas dans le texte d'allusion au fait que, oh là là, qu'est-ce qu'il a été vilain. Moi, j'aime bien, dans la Bible, Dieu rapporte les choses avec vérité, avec authenticité. Il nous laisse juge. Mais il nous montre les conséquences. Ça suffit. Il montre pas. En fait, je trouve que, contrairement à ce que les gens imaginent, Dieu n'est pas moralisateur. Ah, t'as vu, ça c'est pas beau, c'est pas bien, t'es un vilain, tu vas aller en enfer, etc. C'est pas du tout l'esprit de la Bible. La Bible dit, voilà, il a fait ça, voilà ce que ça lui a rapporté. C'est complètement ridicule. Il est obligé de baver sur sa barbe. Voilà. Voilà où ça l'a mené, son histoire. Bon, ben voilà, jugez vous-même. Vous voulez en faire autant? C'est votre choix. Vous voyez, il y a quelque chose de très, très, très formidable avec Dieu. Il nous montre, voilà, tu fais ça, voilà les conséquences. C'est pas compliqué. Et les hommes ont transformé la parole de Dieu. Et ça, ça m'énerve. Ils ont transformé la parole de Dieu comme quelque chose de moralisateur, comme quelque chose de Dieu t'attend là au coin du bois avec son bâton. C'est pas du tout ça. La parole de Dieu est simple. Il pleut, tu sors sans parapluie, tu seras mouillé. Voilà. C'est pas compliqué. Mais pourquoi changer les choses? Parce qu'en fait, ça nous donne une image d'un Dieu qui prend plaisir à punir. Alors que la Bible dit, il prend plaisir à la miséricorde, c'est-à-dire au pardon. Il prend plaisir au pardon. Donc c'est pas du tout l'image qu'on a. Hein. Mais du coup, c'est bien réussi parce que les gens hésitent à s'approcher de Dieu. Je me souviens d'un maire de ma région dont les parents sont chrétiens et il avait été menacé de mort. Et je lui dis, ben écoutez, connaissant ses parents, connaissant l'éducation qu'il avait eue, je lui dis, il vous reste plus qu'à prier. Ah non, je suis pas assez bien. J'ai dit, justement, raison de plus. Voilà. Ben, pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il faut être parfait pour s'approcher de Dieu. Alors que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend pas plaisir à nous taper dessus. Du tout. D'ailleurs, la plupart du temps, on récolte ce qu'on a semé, parce que Dieu nous envoie. Et vous savez, il y a un truc qu'il ne faut jamais dire, surtout ne dites jamais ça. Oh, j'aurais du mal à vous pardonner. Ne dites jamais à un enfant, le bon Dieu t'a puni quand il fait une bêtise. C'est la dernière chose à faire. Pas du tout. Ben, il a couru quand on lui dit de ne pas courir, et il s'est cassé la figure, ben oui. Parce qu'il a couru quand on lui a dit de ne pas courir. Mais pas parce que le bon Dieu l'a puni. Surtout, soyons prudents là-dessus, c'est des petites choses, mais qui déforment l'image de Dieu. Et voyez la façon dont le récit là est amené. Voilà. Il a voulu se débrouiller, il a voulu mentir, il a voulu s'en sortir tout seul. Ben, il est obligé de faire le fou, de baver, l'horreur. Et tout ça, il a risqué sa vie bêtement. Voilà. Après, nous, on en tire les conséquences. Donc, Dieu n'est pas du tout... C'est cette image du Dieu qui casse, qui punit, qui vous attend pour vous choper, elle est complètement fausse. Il prend plaisir à la miséricorde. Que ça reste, je le répéterai jamais assez, parce que la tendance de notre société, la tendance de notre culture, c'est le Dieu qui punit. D'ailleurs, c'est dans toutes les cultures. Hein. On apaise les dieux en faisant des sacrifices, en faisant des cérémonies. Vous pouvez là faire tous les dieux de la planète, hein, que ce soit les Indiens d'Amérique ou les Chinois, etc. Vous pouvez faire le tour. L'idée, c'est toujours d'apaiser les dieux. Ils ne sont jamais contents. Ce n'est pas du tout l'image de la Bible. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit en communion avec lui. Malheureusement, l'homme fait des mauvais choix et il en paie les conséquences. Mais il n'y a pas ce désir de punir. Hein. Enlevez ça de votre tête surtout, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Et en fait, on s'aperçoit dans cette histoire que Dieu est bienveillant et il attend que David reprenne pied. Alors c'est curieux, parce que dans ces cas-là, je trouve plutôt que Dieu, il se met à la fenêtre, puis il regarde. Quand est-ce que tu es prêt à revenir? C'est pas du tout, tu vas voir ce que tu vas prendre, mais c'est bon. Quand est-ce que tu reviens? Rappelez-vous le père du fils prodigue. C'est ça, cette attitude, les bras ouverts, j'attends qu'ils reviennent. Il ne va pas non plus les chercher, hein, parce qu'il nous considère comme des individus, des personnes libres, libres de revenir, ou libres de ne pas revenir. En plus, il respecte notre liberté. Donc il ne va pas nous chercher de force. Moi, souvent, les enfants cinquième, quand je faisais la culture biblique, disaient « Oh, mais pourquoi Dieu il laisse le mal se faire ?» C'est la conséquence des choix de l'homme. Ben oui, mais il ne devrait pas. Alors je dis « Ok, vous aimeriez bien avoir envie de taper votre frère et puis votre main s'arrête. » Et puis j'imaginais toutes sortes de scénarios. « Oh ben non, ce ne serait pas marrant. Ben, » on n'est pas des marionnettes. On n'est pas des marionnettes, malheureusement, d'un sens, mais voilà. Donc Dieu nous attend, il attend qu'on reprenne pied et qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Et il commence donc par sa famille, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors Saül, pendant ce temps, parce que malheureusement, du coup, quand on fait David, on est obligé aussi de voir un peu l'attitude de Saül. Et on va lire comment il se débrouille, lui, Saül. Ah, Saül. Lui, il descend la pente. On voit David qui la monte. Et souvent, dans les histoires bibliques, vous avez ces parallèles. Hein, c'est les critiques de la Bible ont remarqué ça. Il y a souvent des parallèles entre un qui monte, l'autre qui descend. Saül, il apprit que l'on avait des renseignements sur David et sur les hommes qui étaient avec lui. Oh, le FBI fonctionne là-bas. Saül était assis sous le tamaris à Gibéa, sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous les gens de sa cour se tenaient près de lui. Il était en paix, il avait sa cour autour de lui, mais il garde quand même sa lance. C'est un signe, hein. Ça ne va pas chez lui. Saül leur dit, écoutez, je vous prie, Benjaminite. Alors il parle de Benjaminite parce qu'il s'adresse à sa tribu, ses préférés, ces gens qui doivent le soutenir. Le fils de Jessé vous donnera-t-il aussi à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de mille et des chefs de cent? On ne lui a rien demandé, on ne lui parlait pas de David. En effet, vous avez tous conspiré contre moi. Oh le pauvre. Et personne ne m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils de Jessé. Puisqu'il le sait, je ne sais pas pourquoi il fallait l'informer. Aucun de vous ne souffre à mon sujet. Oh, le pauvre. Ni ne m'informe que mon fils a dressé mon serviteur contre moi, afin qu'il me tende une embuscade. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Non, mais c'est gros quand même. Hein. Vous vous rappelez comment il était, Saül? Cet homme courageux qui avait délivré une ville au début de son règne. Mais qu'est-ce qui lui prend? Alors il a des agents de renseignement. Son obsession, poursuivre David. Vous savez, c'est grave quand on a une obsession. Parce qu'on ne peut plus s'en défaire. On pense qu'à ça, on ne vit que pour ça et on oublie tout le reste. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et c'est souvent le problème de la souffrance. Lui, c'était différent. Mais quand on a une souffrance importante, on risque d'avoir des obsessions comme ça. Alors là, je ne rentre pas sur le terrain psychologique, il y en a d'autres qui peuvent le faire, mais on remarque ça. Quand quelqu'un a vécu des grandes souffrances, il a tendance à avoir des obsessions comme ça. Alors attention, si c'est votre cas, ça peut arriver, allez trouver le Seigneur et priez, parce que ça pourrit la vie. C'est bête de se pourrir la vie. Et là, il se pourrit la vie, vous voyez, il est avec sa lance alors qu'il est entouré par ses amis, et puis voilà, il va gémir là. On ne me dit rien à moi. Sa jalousie veut trouver David, le tuer. C'est tout ce que... C'est sa vie maintenant, c'est ça. Il a sa cour autour de lui pour être bien, il pourrait en profiter. Il n'a plus la musique de David, c'est sûr, pour le calmer. Mais il ne vit plus que pour tuer David. Alors il sait que certains ont des informations et pas lui. Donc voilà, oh, pauvre de moi. Pitié de soi. Et ce que j'aime pas chez lui, c'est que c'est lui l'agresseur, que je sache. C'est lui qui a lancé sa lance plusieurs fois contre David. C'est lui qui l'a menacé de mort. C'est lui qui le poursuit. Et si vous regardez bien le texte, il se fait passer pour victime. Bon. Et alors, il est malin quand même. Hein. Il est obsédé, mais il est malin. Parce qu'il fait appel au sens de la tribu. Oh, vous savez, la tribu de Benjamin... C'est notre tribu, et moi je suis de la tribu de Benjamin, donc vous les Benjaminites, je vais vous favoriser. Croyez pas que c'est David qui va vous donner des champs et tout. Moi, je vais vous servir en premier, puisque vous êtes de ma tribu. Donc il fait appel au sens de la tribu. Il fait appel à la soif de possession et d'avantage. Moi, je peux vous donner plein de choses. Oh, le diable, il fonctionne aussi comme ça. Hein. Et à la pitié de la cour. Personne ne se soucie de moi ou personne ne souffre à mon sujet, suivant les traductions. Il veut que les gens souffrent pour lui, pauvre petit. C'est le roi, mince. S'il s'était bien conduit, il a Dieu de son côté. Il a tous les prêtres qui le bénissaient, qui le conseillaient, les prophètes qui le conseillaient. Non, il fait son petit malheureux. Lui, le bourreau agresseur, par un discours habile, il se transforme en victime agressée. Tord complètement la situation. Et vous savez, il y en a un qui est très doué pour faire ça, pour tordre les situations dans nos vies. C'est l'ennemi. Et son terrain favori, il se situe là, c'est nos pensées. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé un jour, de commencer à penser à des choses négatives. Et de continuer à y penser, de continuer à y penser. Et la situation est complètement tordue dans votre tête. La personne qui était un peu désagréable devient un danger public. La personne qui vous a fait une réflexion un jour parce qu'elle avait mal au ventre devient une menace, et ainsi de suite. Puis après, quand vous retrouvez votre bon sens, vous avez prié, vous êtes confié au Seigneur, vous apercevez que... Non, c'était pas ça. Mais le diable est très malin pour se servir de nos pensées, pour nous décourager, pour nous casser, pour qu'on imagine les choses beaucoup plus graves qu'elles ne sont. Et là, évidemment, lui, alors il est en plein dedans, de toute façon la Bible nous dit, hein, qu'il avait cet esprit qui l'agitait, ça se voit. Le problème, c'est que c'est gros, mais ça passe, parce qu'il met des avantages et des cadeaux dans la balance. Donc, oh, le pauvre Saül, victime. Vous remarquerez qu'il est roi quand même, il a été nommé par Dieu pour s'occuper du peuple, et il ne parle que de lui. Moi, moi, moi. Il ne pense plus du tout au peuple, il ne pense même pas à la sécurité de son peuple, alors qu'il est, il est là pour ça, et que c'était un très bon stratège, un très bon soldat. C'est souffrez pour moi, souffrez avec moi, je suis une victime. Alors à notre époque où l'individualisme se développe, des petits Saül, on en rencontre partout. Moi, moi, moi. Parce que vous le valez bien, n'est-ce pas, etc. Et ça rend la vie sociale extrêmement difficile. Je suis en train de lire un livre de Colin Dye où il explique que globalement la Bible s'adresse à chacun individuellement, mais beaucoup de passages de promesses sont collectifs. Ouh, c'est un gros mot d'ailleurs, la collectivité. Vivre en collectivité. C'est très négatif hein, quand on le dit. Hein. Mais les promesses de la Bible sont souvent collectives. Elles s'adressent à la communauté. Israël, l'Église, les disciples. Il ne faut pas l'oublier. Même si Dieu prend soin de nous chacun individuellement, on forme un corps. Il ne faut pas l'oublier. Oui, alors ça, il y a un très bon livre d'Alfred Kuhn sur les uns les autres. Je ne sais plus combien de fois c'est, 70 ou 80. Oh, plus que ça hein ? Je ne suis pas bonne avec les chiffres. Mais voilà, le nombre de fois où la Bible dit les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, etc. Il y a ce côté collectif qui est très très important parce que les bénédictions du corps rejaillissent sur les individus et les bénédictions des individus vont rejaillir sur le corps. Et les péchés, pareil. Je l'ai déjà dit souvent, mais c'est vrai quand bon, c'est souvent les jeunes qui disent ça, mais maintenant il n'y a plus d'âge. Ah, mais c'est ma vie, je fais ce que je veux. Bien sûr, un couple peut dire ça, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Mais les enfants, ils vont encaisser les problèmes. Ah mais, les adultes vont dire c'est ma vie. Et les enfants, ils vont quand même encaisser. Les parents des deux côtés, ils vont encaisser les difficultés aussi, je dirais. Tout ce qu'on fait rejaillit forcément sur les autres. Regardez dans les grands magasins, ils montent les prix, pourquoi dans certains cas? Parce qu'il y a trop de vols. Du coup, ils ont une marge pour couvrir les vols. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ah ben oui, mais ça affecte les autres. Et ainsi de suite. Regardez le nombre de lois qui sont votées régulièrement. C'est fou. Ben parce qu'il y a des gens qui ont abusé, et des choses qui étaient autorisées hier ne le sont plus aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Et ainsi de suite. Ce que l'individu fait rejaillit sur le corps. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et il faut penser à ça aussi quand on lit la Bible. Ne pas tout prendre que pour moi, même s'il faut. La Bible s'adresse à nous en tant que personne, mais il y a aussi un côté collectif qu'il ne faut pas oublier. C'est important, au passage. Alors, on va s'apercevoir que Doeg, vous vous souvenez, celui qui était là quand David est allé demander à manger au prêtre, Doeg l'Édomite, qui se tenait à la tête des gens de Saül, répondit, « J'ai vu le fils de Jessé venir à Nob auprès d'Ahimélec, fils d'Ahitoub. » Ahimélec a interrogé pour lui le Seigneur. Ça, le texte ne le disait pas. On n'en est pas sûr. Est-ce qu'il a abusé ? Il en a rajouté, je ne sais pas. Il lui a donné des vivres, il lui a donné l'épée du Philistin Goliath. Voilà, lui, il raconte tout. C'est comme les petits-enfants, hein, il rapporte. Il sait bien ce qu'il fait. Parce qu'il sait que Saül est complètement dévoré par son obsession et que si on lui dit quelque chose qui ne va pas dans son sens, il va prendre les armes. Le roi fit appeler Ahimélec, fils d'Ahitoub, le prêtre, et toute sa famille. Vous voyez, à l'époque, ils étaient beaucoup plus collectifs que nous. C'est pas seulement le prêtre, mais sa femme, ses enfants, etc. C'est fou, hein. Ils se rendirent tous auprès du roi. Saül dit, écoute, je te prie, fils d'Ahitoub. Il répondit, oui, mon seigneur. Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils de Jessé? Pourquoi lui as-tu donné du pain, une épée, et as-tu interrogé Dieu pour lui? Et là, lui, il en rajoute, afin qu'il se dresse contre moi et me tende une embuscade. Ça, c'est son imagination. Le reste, c'était vrai. Mais ça, c'est son imagination. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Ahimélec répondit au roi, mais qui donc parmi tous les gens de ta cour est sûr comme David, le gendre du roi, lui qui est affecté à ta garde personnelle, qui est considéré dans ta maison? Il n'était pas au fait des dernières nouvelles, lui. Hein. Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à interroger Dieu pour lui? Sûrement pas. Que le roi ne mette pas l'affaire à ma charge, ni à celle des personnes de ma famille, car je ne sais pas un traître mot de tout cela. C'est vrai qu'il n'était pas du tout conscient qu'il y avait une rupture entre Saül et David. Donc il a agi en toute bonne foi. En plus, David lui avait menti. Le roi dit, tu mourras, Ahimélec, toi et toute ta famille. Et le roi dit aux gardes du corps qui se tenaient près de lui, tournez-vous. Et là, c'est une phrase quand même étonnante dans la bouche du roi. Et mettez à mort les prêtres du Seigneur. Voyez où est-ce qu'il en est arrivé. Il va encore descendre plus bas d'ailleurs. Mais celui qui avait tant de respect pour Samuel, qui sortait pas sans que Samuel l'accompagne, qui écoutait les paroles de Dieu que donnait Samuel, il en est arrivé à cause de cette obsession, cette jalousie, de vouloir tuer les prêtres du Seigneur sans même écouter leur défense. C'était en gros, ben moi j'étais pas au courant que vous étiez fâchés. Mais ça fait rien, il veut rien savoir. Tournez-vous et mettez à mort les prêtres du Seigneur, car eux aussi ont prêté la main à David. Ils ont su qu'il s'enfuyait. Et là, il a tort, on vient de lui dire, mais il s'en fiche, il écoute pas. Et ils ne m'ont pas informé. Mais les gens du roi ne voulurent pas porter la main sur les prêtres du Seigneur. Ils avaient le respect de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'on va en reparler pour d'autres choses. Il y avait une crainte de Dieu qui était quand même là. Les gens n'étaient pas parfaits, mais ils avaient une crainte de Dieu. Et on ne touche pas aux prêtres du Seigneur. Alors le roi dit à Doeg, « Vas-y, toi !» Eh oui, forcément. Lui, il n'était pas du peuple juif, donc il pouvait se le permettre. « Vas-y, toi !» exécute les prêtres. Alors Doeg l'Édomite, Alla, c'est lui qui exécuta les prêtres. Il mit à mort ce jour-là 85 hommes portant les fautes de l'un. Il passa au fil de l'épée Nob, la ville des prêtres, hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes, moutons et chèvres, ça le sens de la communauté, furent passés au fil de l'épée. Ils avaient inclus dans le peuple un homme qui n'avait pas la crainte de Dieu. Et c'est tout le peuple qui en a subi les conséquences. C'est un souci, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais c'est pas l'objet, mais c'est inquiétant qu'il ait établi chef de ces gens, de ces bergers, d'autres textes disent des bergers, hein, un homme qui n'avait aucun respect pour Dieu. Et la conséquence, elle est là. Tous les prêtres sont convoqués et Saül les fait tuer. Saül, par la même occasion, a appris quelque chose. C'est que Jonathan n'était pas dans ce coup-là. Du coup, il va plus penser à son fils, mais centrer toute son attention sur David. Tant mieux pour Jonathan, mais tant pis pour David. Donc il laisse son fils à part de cette histoire. Devant le refus de ses gardes, Saül aurait quand même pu avoir une occasion de faire machine arrière. Au lieu de ça, il va s'enfoncer dans une violence insensée, alors même qu'il n'est plus suivi par ces gens. Ça aurait dû le faire réfléchir. Et quelquefois, Dieu nous fait réfléchir comme ça. On a une idée, on a un projet, puis on voit que les gens ne sont pas forcément « Oh non, mais là, ça ne va pas. » Et parfois, on a l'occasion de se remettre en question. Ça peut nous aider. Alors, l'opinion des autres n'est pas déterminante, mais elle peut nous aider dans certains cas. Et ça vaut le coup de demander au Seigneur « Qu'est-ce que tu penses ?» un tel m'a dit ça, est-ce que c'est de toi ou c'est pas de toi? Est-ce que, voilà, ça permet de se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre aveuglément tout ce que chacun pense, mais parfois c'est un petit rappel pour dire attention. Donc il faut prendre en considération. Je me souviens, il y a plus de 20 ans maintenant, quelqu'un m'avait dit quelque chose de très important et je n'ai pas pris en considération. Je dis, oh, pas grave. Et je n'ai pas prié non plus là-dessus. J'ai beaucoup regretté. Parce qu'en fait, la personne avait totalement raison. Et c'était un avertissement du Seigneur. Donc, soyons quand même attentifs. Ça ne veut pas dire qu'on va être servile hein, devant les opinions des autres, mais au moins, ça vaut le coup de temps en temps de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qu'il m'a raconté là, mais est-ce que, par hasard, ce serait juste ? Montre-le-moi d'une autre manière. Saül, je n'ai même pas posé la question. Tuer, 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 c'est tout ce qui l'intéressait. Donc, voilà, on était mal. Un seul fils d'Ahimélec, fils d'Abitoub, échappa. Son nom était Abiathar. Il s'enfuit pour suivre David. Tiens, voilà, fugitif. Un de plus dans l'équipe de David. Abiathar dit à David que Saül avait tué les prêtres du Seigneur. Et David dit à Abiathar, j'ai bien compris ce jour-là que Doeg l'Édomite se trouvant là, il ne manquerait pas de le dire à Saül. Et à cette époque, comme je l'ai fait remarquer la semaine dernière, David n'était pas dans son assiette. Il savait que ça allait être un gros risque et il n'a rien fait. Il aurait dû faire demi-tour et dire non, ne me donne rien, ça va te coûter trop cher. Mais il était trop mal, il ne l'a pas fait. Et vous voyez, nos erreurs peuvent amener des conséquences graves sur les autres. C'est pour ça qu'on est un corps et qu'il faut faire attention à ce principe les uns les autres. David a fait une grosse bêtise. À cause de lui, tous ces gens-là sont morts et il en est conscient. Il dit bien, j'ai bien compris ce jour-là que Doeg, se trouvant là, ne manquerait pas de le dire à Saül. C'est moi qui ai causé la mort de toute ta famille. Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en veut à ma vie en veut à ta vie. Près de moi, tu seras bien gardé. C'est un verset qu'on aime bien utiliser pour Jésus avec nous, hein, près de moi, tu seras bien gardé. Mais je pense que ça a dû être dur à encaisser pour David, cette culpabilité. Ça n'a pas dû être évident. C'est de ma faute si tous ces gens ont été tués. C'était un mauvais début pour lui. Mais ce que j'admire chez David, c'est qu'au lieu de rester sur cette culpabilité, vous allez voir comment il se reprend juste après, avec beaucoup de courage. Chapitre 23. On dit à David, les Philistins attaquent Kéla et saccagent les airs. Alors les airs, c'est les endroits où on battait le grain. On les choisissait dans des endroits un peu surélevés, où il y avait beaucoup de vent, et on battait le grain, ce qui fait que toute la balle, ce qu'on appelle la balle, donc les petites enveloppes des grains, s'envolaient par le vent, et les grains restaient sur le terrain plat sur lequel on battait. Et avec des fléaux, vous savez, c'est ces bâtons attachés avec. Voilà. Vous regarderez dans le dictionnaire. Et donc, on tapait jusqu'à ce que tout s'envole et ensuite on récupérait. Et les Philistins, ils n'étaient pas fous. Ils n'attaquaient plus pendant avant les moissons, parce qu'il aurait fallu couper, tout ça. Ils n'attaquaient plus le jour de la moisson, parce que. Ils préféraient attaquer une fois que c'était battu et qu'il y avait juste les grains à prendre. Donc, ils attendaient. Et ils étaient spécialistes des razzias. Donc, ils attendaient. Et au moment où on battait le grain dans les airs, bien la nuit, ils arrivaient avec des petits chevaux rapides et ils prenaient tout. Donc, les Philistins attaquaient là et saccagent les airs. David interrogea le Seigneur. Ah, vous voyez, c'est autre chose, lui, hein, maintenant. Il va mieux. Premier réflexe, il interroge le Seigneur. Irai-je et battrai-je ces Philistins ? Le Seigneur lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu sauveras la ville de Kéla. Mais les hommes de David lui dirent, ici même en Juda, nous on a peur. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Kéla contre les lignes des Philistins? Eh bien, qu'est-ce qu'il fait David? Il fait ce qu'on doit tous faire, il retourne voir le Seigneur. Très intéressant. Il retourne voir le Seigneur, peut-être il se dit, bon, est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que... Eh bien, il va revoir le Seigneur. Et le Seigneur lui répond, descends à Kéla, car je te livre les Philistins. Donc, pour interroger le Seigneur, on sait qu'il avait maintenant des prêtres et des prophètes avec lui. Hein. Descends et je te livre les Philistins. David alla donc avec ses hommes à Kéla. Il attaqua les Philistins, il emmena leurs troupeaux et leur infligea une grande défaite. Ah, il récupère le bien qui a été volé. Ainsi, David sauva les habitants de Kéla. Lorsqu'Abiathar, fils d'Ahimélec, s'était enfui pour rejoindre David, il était descendu, l'éphod en main. Donc c'était ce qui permettait d'interroger le Seigneur. David, dans cet épisode-là, il franchit une grande étape. Il est lui-même fuyard, lui-même vit sous la peur de se faire tuer. Et on lui dit, ben voilà, il y a une ville qui est attaquée. Il faut faire quelque chose, il a bien compris. Et Dieu lui dit, vas-y, tu peux y aller. Alors, vous rendez compte, le trajet qu'il a fait, si on regarde un peu en arrière, d'abord, il fait n'importe quoi, il ment, il met les autres en danger. Il se réfugie chez l'ennemi, il ment encore, et il se fait passer pour fou. Après, il se réfugie dans une grotte, et il commence à organiser sa troupe, il prend soin de sa famille, et on apprend qu'il réunit autour de lui les prophètes, des sacrificateurs, et il va suivre leurs conseils. Et maintenant, il est prêt. Il est prêt à détourner le regard de ses problèmes pour s'occuper des autres. Alors moi, je trouve ça admirable. Il est en fuite, pour dire vulgairement, il a le feu aux fesses. D'un jour à l'autre, ça peut lui tomber dessus. Et il pense aux autres, à cette ville qui est attaquée par les Philistins. Ça, c'est un pas énorme qu'il fait. Il est prêt à défendre une ville. Et ses troupes, elles ont encore peur. Il dit, mais attends, tu n'y penses pas là ? Nous, on meurt de peur et il faut qu'on aille défendre les autres. Et Dieu est catégorique, oui, je vous les livre. Et on constate là qu'il a complètement repris confiance en Dieu. Vous avez vu les étapes ? Là maintenant, il a complètement repris confiance en Dieu. Et je pense qu'on s'aperçoit aussi qu'on sort du trou quand on commence à détourner le regard de nos problèmes pour prendre soin des autres. Et d'ailleurs, si vous lisez les magazines et les journaux des allocations familiales, des sécurité sociale, les petits avis des gendarmes et tout, ils disent tous la même chose. Si vous ne voulez pas couler, si vous ne voulez pas déprimer, occupez-vous des autres, entrez dans une association, faites du bénévolat. Occupez-vous des autres. Tiens, tiens, tiens. Il y aurait quelque chose de thérapeutique dans le fait de prendre soin des autres. Eh bien oui, parce qu'on a été fait pour ça. Vous savez, c'est comme je dis toujours, essayez de mettre du linge dans le lave-vaisselle ou l'inverse, ça ne marchera pas très bien parce que ce n'est pas fait pour ça. Et l'homme, il n'est pas fait pour vivre moi, moi, moi. Il n'a pas été conçu comme ça. Ce qui fait quand il se tourne vers lui-même pour dire moi d'abord, moi, 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 les autres, je m'en fiche, il se rend malade parce qu'il n'est pas fait pour ça. On a été fait pour prendre soin des autres, pour vivre en société, malgré tous les défauts des autres. D'ailleurs, ça nous fait grandir. On le remarque d'ailleurs avec les enfants. Hein. Je m'excuse auprès de tous les enfants uniques, mais j'admire souvent les enfants de familles nombreuses. Quand ils arrivent à 20, 25, 30 ans, 40 ans, ils ont une aisance, ils ont un regard sur les autres qui n'est pas le même. Ça peut aussi arriver aux enfants uniques, mais c'est vrai qu'ils ont un avantage, parce qu'ils en ont bavé toute leur enfance avec des frères et sœurs hyper casse-pieds, et il a fallu qu'ils passent dessus. Voilà. Donc là, ça y est, David, il va reconsulter Dieu pour être bien sûr qu'il ne se trompe pas. C'est ce qu'il faut faire. Et il va se soumettre à Dieu, il va réussir même, alors là, il fallait le faire, avec ses 4 ou 500, je ne sais pas combien ils étaient arrivés, bons hommes, leur dire... On y va quand même. Vous avez peur, mais on y va quand même. Et ils ont obéi. Il commence à régner, là. C'est plus le gars qui bavait chez les Philistins, là. Il est moins centré sur lui. C'est pourquoi Dieu peut lui dire, tu sauveras la ville. Et il reprend son rôle de protecteur du pays. Il a commencé avec Goliath, après il y a eu... Hein. Mais là, maintenant, ça y est, il reprend son rôle de protecteur du pays. Et c'est ça qui lui avait attiré la faveur du peuple. Vous vous souvenez, la Bible dit que quand Samuel l'envoyait se battre, en espérant qu'il serait tué, bien sûr, mais tout Israël et Juda aimaient David, c'est 1 Samuel 18-16, parce que c'était lui qui partait en campagne et en revenait devant eux. Il prenait soin des soldats, il les accompagnait, il allait se battre, il gagnait la victoire et il les protégeait. David gagne, il emporte les troupeaux, il va donc pouvoir pourvoir aux besoins de sa troupe. Sans avoir besoin de piller. Il va prendre à l'ennemi ce que l'ennemi vient voler. Saül, lui, ben, il n'a pas besoin de consulter le Seigneur. Il assume que Dieu lui a déjà livré David. Vous allez voir la suite. On va s'arrêter bientôt là. On dit à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit, ah c'est marrant, mais là il fait allusion à Dieu. Comment on peut utiliser le nom de Dieu pour dire des sottises ? savez, les Juifs sont très attentifs à ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. Je crois qu'il faut peut-être qu'on le soit un peu plus, nous aussi. Quand on dit « Dieu m'a dit », attention, je crois que Dieu m'a dit. « Dieu me l'abandonne, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. » Ouais, Dieu me le donne. Bah tiens, c'est vite fait, hein. Stratégiquement, il s'est dit « c'est bon, donc c'est Dieu ». Voilà. Saül bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mal que Saül tramait contre lui. Il dit au prêtre, apporte l'éphod, donc il consulte le Seigneur. Et il dit, Seigneur Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'ai appris que Saül cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saül descendra-t-il comme je l'ai appris? Seigneur Dieu d'Israël, je t'en prie, dis-le-moi. Le Seigneur répondit, il descendra. David dit encore, mais les autorités de Keïla me livreront-elles, moi et mes hommes, à Saül? Et le Seigneur répondit, elles te livreront. Waouh! Alors David et ses hommes, voyez, sont arrivés à 600, environ 600 hommes quittèrent Keïla et s'en allèrent où ils purent. Et on dit à Saül que David s'était échappé, il renonça à son expédition. Waouh! Ils ont été sauvés, eux, leurs femmes, leurs enfants, la ville, leurs biens, sauvés de l'attaque des Philistins. Et qu'est-ce qui se propose? Si on vient chercher David, on le livrera. Waouh! Alors bon, on ne va pas être trop méchant avec eux, parce qu'ils savaient ce qui s'était passé à Nob. Ils se disaient, là, si Saül vient et qu'on dit non, on ne te donnera pas David, voilà, c'est fini, notre ville est détruite et tout le monde est tué. Donc on peut les comprendre, mais quand même, ça fait mal au cœur. L'ingratitude de la ville est peut-être choquante. Mais bon, David n'a pas l'air de s'en soucier plus que ça. Il dit simplement à Dieu, est-ce qu'ils vont me livrer? Dieu dit oui. Bon, donc il faut mieux s'en aller. Mais il n'y a pas de récrimination, il n'y a pas de colère. Et du coup, ça m'a fait un petit peu réfléchir. C'est vrai que dans la Bible, Dieu dit, soyez reconnaissants. Et c'est important d'être reconnaissant, même pour des petites choses. Mais d'un autre sens, moi j'ajouterais, j'ajoute pas un verset à la Bible, hein, mais ne soyons pas écœurés de l'ingratitude humaine. Bon là, on peut comprendre, mais parfois on ne peut pas comprendre. C'est sûr qu'on ne fait pas les choses pour avoir un merci, mais parfois on est surpris de l'ingratitude des autres. Mais le problème, c'est que si on s'attend toujours à de la reconnaissance, on risque d'être très malheureux. Que ce soit dans la famille, dans le travail, dans les amitiés, même dans l'église. Si tout ce qu'on fait, on s'attend à ce que tout le monde vienne dire « Oh merci, c'était formidable !» Si on vit pour ça, on va être extrêmement malheureux. Parce qu'il y a les gens qui oublient, il y a les gens qui ne pensent pas pour d'autres raisons. Puis il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants de nature, peu importe. Mais dans ce domaine, on est tous un peu pareil. Là, je dirais à la décharge des gens ingrats. On a tous un petit côté. Je ne sais pas si vous avez remarqué... Comme on oublie facilement les bonnes actions, les coups de main, les services rendus, même les paroles encourageantes. Par contre, on n'oublie pas hein, les paroles un peu vaches, les manquements, les fautes des autres. Ça, ça reste gravé. Hein. Ça, c'est humain. Vous voyez, nos faiblesses humaines, elles sont là. Et je crois qu'on est tous pareils. Et si... ma mère avait une mémoire d'éléphant et... Parfois, elle me disait, mais tu te rappelles cette personne qui t'a aidé à telle occasion, etc. Et puis, je suis là, ah oui, j'avais oublié. Ben, j'ai honte. Mais on est humain et on va facilement oublier les bonnes choses. Par contre, on va se souvenir du petit truc qui n'a pas marché. C'est la tâche au milieu de la page blanche. Voilà, pour ce qui est de l'ingratitude. Donc, surtout, c'est humain. Et ne restons pas bloqués sur l'ingratitude des gens. Parce qu'on a, et pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, lui, il se souvient de tout ce qu'on a fait, bon ou mauvais. Ce qui est demandé pardon, il oublie, hein, ce pourquoi on a demandé pardon. Mais lui, il se souvient. Et vous vous souvenez de ce passage, c'est dans l'Apocalypse, « Je me souviens de tes œuvres », etc. Il se souvient de tout ce qu'on a fait. Et lui, il nous récompense. Et là, je suis sûre que vous auriez des tas d'exemples. Peut-être les gens pour qui vous avez fait quelque chose, ils n'ont pas été reconnaissants. Mais Dieu va permettre que quelqu'un d'autre, quand vous avez besoin de quelque chose, vous rende l'appareil. Et ça, j'aurai des tas de témoignages, j'ai plus le temps maintenant, mais c'est Dieu qui nous bénit. C'est Dieu qui nous le rend. Et c'est Dieu qui nous tape sur l'épaule en disant, c'est bien ce que tu as fait. Et en fait, encourager quelqu'un, rendre service, faire du bien, faisons-le pour réjouir le cœur de Dieu. Et lui sera toujours reconnaissant. Il y a des milliers d'exemples. Alors, tant pis si les gens nous oublient, tant pis si les gens ne sont pas reconnaissants. Quelquefois, ils sont reconnaissants en retardement, ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de le faire pour le Seigneur. Et je sens que David, là, il va bien. On va le quitter sur quelque chose de très positif. Il va bien. Et pourquoi il va bien? Il s'occupe des autres. Et il ne s'occupe pas si les gens ne sont pas reconnaissants. Il fait ce que Dieu lui demande. Et vous savez, il y a vraiment, je trouve dans la vie, ce qui est vraiment gratifiant, c'est de sentir qu'on a fait ce que Dieu nous demandait. Reconnaissant, pas reconnaissant, c'est pas grave. Mais on sent qu'on a fait ce que Dieu nous demandait. Et ça, je trouve que c'est terriblement gratifiant. Et là, c'est un signe de bonne santé. David est en bonne santé. Et on va le retrouver l'année prochaine, en pleine forme. Et on va voir qu'il va aller beaucoup plus loin. Mais on le quitte rétabli quand même. Je ne voulais pas m'arrêter sur une note négative. On le quitte, il est en pleine forme. Et il a renoué complètement avec son Seigneur, avec son peuple. C'est bon signe pour l'année prochaine.